Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Bonjour à tous. En Europe, presque tous les États membres de l'UE, 26 sur 28, autorise l'interruption volontaire de grossesse. Mais derrière ce droit inscrit dans la loi se cachent souvent des situations bien plus compliquées pour pouvoir réellement interrompre une grossesse non désirée. Exemple, en Irlande, dernier pays européen à avoir libéralisé l'avortement après un référendum. Depuis un an, les Irlandaises ont le droit de mettre un terme à leur grossesse sans condition chez un généraliste jusqu'à 9 semaines. Une loi progressiste sur le papier, mais pas évidente à faire appliquer. C'est ce que nous explique notre correspondante Emeline Vin, qui s'est rendue dans le nord-ouest de l'Irlande. Reportage.
Un an après la légalisation de l'avortement, dans le comté rural de Sligo, aucun médecin généraliste ne pratique l'IVG. Certains ont trop de travail pour entamer la formation. Pour d'autres, cela reste moralement inenvisageable. Paul Murray milite au sein de SARA, l'action de Sligo pour les droits reproductifs.
Vous pouvez avorter à Roscommon, à Galway, à Mayo, qui sont les comtés voisins, mais vous ne pouvez pas avorter dans le comté de Sligo.
Aujourd'hui, l'Ordre des médecins estime qu'environ un docteur sur 10 fait apparaître son nom sur la liste des professionnels pratiquant l'avortement, liste accessible via une ligne téléphonique dédiée aux femmes en situation de grossesse non désirée. 400 généralistes à l'échelle de l'Irlande, c'est insuffisant pour les associations.
Oui, il y a des docteurs dans les comtés voisins qui pratiquent l'avortement, mais c'est dangereux. Mettons que vous alliez à Galway, c'est à 3 heures de route d'ici. Vous rentrez chez vous et vous réagissez mal à la pilule. Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas faire la route jusqu'à Galway à nouveau.
Quant à se rendre à l'hôpital, on n'efface pas en quelques mois des décennies de criminalisation.
Les femmes ne sont pas toujours à l'aise pour en parler ou pour demander de l'aide, même si le référendum a été approuvé à plus de 60%, ça reste un sujet tabou.
D'ailleurs, aucune femme n'a accepté de témoigner pour ce reportage. Pour une femme du comté de Sligo, qui ferait face à une grossesse non désirée, il faut se rendre à Sligoville, avec une desserte très clairsemée depuis la campagne. Ensuite, prendre un bus qui passe une fois par heure vers une ville du comté voisin, à 30 minutes au nord. L'une des médecins qui exerce ici préfère rester anonyme. Depuis un an, elle reçoit de très nombreuses patientes de tout l'ouest de l'Irlande.
La dernière patiente que j'ai reçue a fait 1h15 de route pour venir me voir. Elle refera cette route pour rentrer, puis pour revenir dans quelques jours. 2h30 encore.
Au moins 2 consultations sont nécessaires avant une IVG. Ces trajets ont un coût et compliquent encore la tâche pour les plus vulnérables. Les femmes en situation de handicap, les mineurs, celles qui ne peuvent pas poser un jour de congé. Aujourd'hui, cette doctoresse, qui a 25 ans d'exercice derrière elle, se dit privilégiée de pouvoir rendre ce service aux patientes. Mais la mise en place a été très compliquée.
Je pensais avoir une femme par mois. C'est un petit cabinet et nous sommes en zone rurale. La première semaine, j'ai eu 13 demandes. Je n'ai pas pu faire face à cette demande. Et j'ai eu du mal à gérer cela émotionnellement aussi. Voir la douleur, la détresse de ces femmes, c'est quelque chose dont on ne parlait pas.
À l'issue de cette première semaine, elle a dû faire une pause, prendre le temps de parler avec les associés de son cabinet. Elle prend ses rendez-vous particuliers en dehors des heures de consultation habituelles pour ne pas leur infliger de surcharge de travail. Aujourd'hui, cette médecin anonyme reste très demandée, mais elle croit fermement que davantage de médecins vont s'inscrire sur la liste du Service national de santé. Alors pourquoi cette réticence de la part des médecins? Certains font valoir leur clause de conscience pour ne pas pratiquer un acte qu'ils estiment répréhensible. Sur les réseaux sociaux, des anonymes témoignent ainsi de médecins peu coopératifs. Il y a aussi la peur. Paul Stewart, qui exerce tout au nord du pays, a vu des manifestants anti-avortement arriver dès janvier devant son cabinet.
Ils venaient tous les samedis à 11h, jusqu'à très récemment. Ils étaient là, debout, avec leurs pancartes montrant des photos de mères et de bébés. Et puis on a remarqué qu'on avait de moins en moins de patients le samedi matin, même pour d'autres consultations. Alors on a fermé le cabinet tous les samedis.
Pour inciter les docteurs à s'inscrire sur la liste, les activistes réclament désormais la mise en place de zones de sécurité autour des cabinets. Du côté des associations pro-choix de docteurs, le principal groupe s'estime satisfait du nombre de généralistes inscrits, même s'il reste du chemin. Le porte-parole rappelle que jusqu'en 2018, c'était jusqu'en Angleterre qu'il fallait voyager. Woman, this is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. For this man, girl, woman, there ain't a woman in this world. Not a woman or a girl. They can deliver.
Au sud de l'Europe, un tout petit État suit attentivement les avancées irlandaises sur l'avortement. Il s'agit de Malte. Sur cette île méditerranéenne, l'avortement est toujours complètement interdit, sans aucune exception. Passible de 3 ans de prison pour la femme qui avorte et de 4 ans d'incarcération pour le médecin qui pratique l'IVG. Dans ce contexte, le sujet est, on s'en doute, extrêmement délicat à aborder. Mais depuis quelques mois, plusieurs associations tentent d'ouvrir un débat sur la dépénalisation de l'avortement. Cécile Debarge les a rencontrées.
C'est une vente de gâteaux loin d'être anodine. Sur la longue table, les muffins, brownies et biscuits colorés partagent l'espace avec des dépliants, des stylos et tout un tas d'objets qui portent le même message, ayant le choix.
Je m'appelle Fran, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master et on se trouve sur le campus. Nous faisons partie d'une association étudiante et en ce moment, on milite surtout pour la décriminalisation de l'avortement.
Le choix, c'est celui de pouvoir avorter librement. Un combat difficile aujourd'hui à Malte, auquel se sont ralliés ces derniers mois Fran Zamit et à ses côtés Maya Dimitrievitch, 19 ans.
On a ces petits autocollants pour encourager les étudiants et les gens à les coller dans les toilettes, surtout dans celles des femmes. Et qui a besoin peut appeler ce numéro, parler à quelqu'un qui n'est pas maltais, qui est à l'étranger et qu'on ne peut pas reconnaître, et qui peut aider les femmes à avoir un accès à un avortement sûr et légal.
Fran et Maya font partie des Young Progressist Beings Malta, une association composée de 5 étudiantes qui ont rallié les Doctors for Choice, littéralement les médecins pour le choix. Christopher Barbara est britannique, il termine son cursus sur l'île et fait partie des 25 médecins, hommes et femmes, qui ont décidé en mai dernier de fonder Doctors for Choice.
On ne peut pratiquer aucun avortement que ce soit à Malte, c'est contre la loi. Donc ce qu'on fait en tant que professionnel, et particulièrement au sein de notre groupe, c'est de conseiller ces femmes, de leur expliquer toutes les options, y compris celle d'interrompre la grossesse ou bien celle de confier son bébé à l'adoption. Mais si la femme souhaite interrompre sa grossesse, on la confie à d'autres agences à l'étranger, notamment le réseau de soutien à l'avortement, où elles peuvent avoir un avortement sûr et légal dans des pays qui le permettent.
Ce réseau est basé au Royaume-Uni. Depuis le mois de février, il propose ses services aux Maltaises. En moins d'un an, 43 femmes de l'île ont voyagé grâce à leur intermédiaire pour se faire avorter. D'autres se rendent en Sicile, l'île voisine, à quelques heures de ferry seulement. Pour celles qui n'en ont pas les moyens ou qui n'ont pas les informations nécessaires, la situation est beaucoup plus compliquée, comme l'explique le docteur Barbara.
Nous savons que la situation actuelle pousse les femmes au désespoir. Nous savons que certaines femmes tentent de se blesser. Certaines même tentent de se suicider parce qu'elles veulent interrompre leur grossesse mais ne trouvent pas le bon soutien. Nous savons que chaque année, des centaines de femmes ont entre leurs mains des pilules abortives et les prennent sans aucun suivi médical, ce qui les met en danger, car il y a un tel tabou que si elles souffrent de complications, elles demanderont très difficilement de l'aide.
Car une femme qui avorte est passible de 3 ans de prison. Saveria Cremona est étudiante en 5e année de médecine, membre associé de Doctors for Choice. Elle souhaite devenir gynécologue et la situation de ces femmes la révolte.
Elles finissent à l'hôpital avec des infections ou des saignements, et ce sont des choses qui arrivent. Et au final, il n'y a aucune statistique là-dessus, car si un médecin signale une patiente suspectée d'avortement illégal, elle sera ensuite dénoncée à la police, et personne n'a envie de finir comme ça.
Ce que demandent aujourd'hui ces militants, c'est un débat apaisé sur la question. Une position que partage Jasmine, étudiante en licence sur le campus, venue demander quelques informations.
J'aimerais juste que les gens puissent en parler, qu'ils soient informés, c'est tout, peu importe ce qu'ils pensent. Il ne s'agit pas de dire « écoute, tu dois être pour l'avortement », mais juste laissons le choix.
Depuis l'été dernier, le mouvement pro-choice maltais fait des incursions de plus en plus fréquentes dans le débat public, même si la question reste complètement verrouillée sur le plan politique. Fin septembre, ils ont pour la première fois parlé en public en organisant une rencontre dans un parc. Libérer la parole, c'est l'une des clés, estime Maya Dimitrievitch, qui a suivi de très près les succès des militantes d'Irlande du Nord.
Elles avaient un mouvement de femmes qui prenaient la parole publiquement pour parler de leur expérience, ce qui n'est pas le cas à Malte, car Malte est petite, et lorsqu'on demande aux femmes parfois pourquoi elles ne parlent pas, en réalité, on ne s'imagine pas la violence des réactions qu'elles affrontent, et on ne veut imposer ça à personne.
Elle-même a dû essuyer insultes et menaces, comme cette femme qui, sur le campus, ce jour-là, les a traités de nazis et de meurtriers. Tueur d'enfants, ces mots, Fran les a entendus en grandissant. Issue d'une famille catholique, elle a d'abord été pro-life, mais après avoir fait du bénévolat dans une association qui aide les familles démunies, elle s'est rendue compte qu'elle venait d'un milieu privilégié, que ce n'était pas le cas de tout le monde et qu'il était important de laisser le choix à chacun.
Avec une éducation adéquate et non biaisée, vous pouvez vraiment commencer à faire changer les mentalités, à réduire les a priori et à faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas le droit de prendre des décisions pour les autres.
Les jeunes militants prévoient pour les mois à venir de nouvelles rencontres à La Valette, la capitale maltaise, mais aussi des interventions en amphi, à l'université, pour tenter d'informer différemment.
Après Malte, c'est la Pologne qui restreint le plus fortement l'avortement en Europe. Depuis 1993, l'IVG est autorisée dans 3 cas seulement, pour le viol ou l'inceste, quand la vie de la mère est en danger ou en cas de malformation du fœtus. Et même dans ce dernier cas de figure, 4000 médecins polonais invoquent une clause de conscience pour ne pas pratiquer d'avortement. Résultat, pour interrompre une grossesse non désirée, les Polonaises n'ont pas d'autre choix que de partir à l'étranger. Et depuis la fin de l'année, une fondation internationale leur vient en aide pour financer leur voyage. Thomas Giraudeau.
Auparavant, la fondation Abortion Support Network se concentrait sur Malte et sur l'Irlande. Depuis la libéralisation de l'avortement à Dublin au printemps 2018, elle se focalise maintenant sur la Pologne. Depuis le 11 décembre, les Polonaises qui ne sont concernées par aucun des 3 cas autorisés par la loi ou qui se sont vues refuser leur demande d'IVG par des médecins peuvent demander de l'aide auprès de la fondation. Celle-ci s'est alliée avec d'autres associations allemandes, néerlandaises, polonaises pour former Avortement sans frontières, un groupement qui, au cas par cas, aide les femmes à financer leurs déplacements à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, dans ces 3 pays où la fondation a des bureaux et peut physiquement aider les femmes quand elles arrivent sur place. De quelques dizaines d'euros à 3000 pour les cas les plus difficiles, la fondation aide à payer le logement, les rendez-vous médicaux et les frais d'interprète. À titre d'exemple, l'intervention coûte environ 500 euros en Allemagne, ce qui est dans la fourchette basse. Avant cela, Avortement sans frontières propose aussi une ligne téléphonique d'écoute. Si les femmes en sont au début de leur grossesse, elle les aide à se procurer des pilules abortives envoyées depuis l'étranger, car introuvables dans le pays. Les pilules du lendemain ne sont aussi délivrées que sur ordonnance. La fondation Abortion Support Network est uniquement financée par des dons de particuliers et assure que son travail est légal, mais le lobby ultra-conservateur Ordo Iuris a déjà porté plainte auprès du parquet. Le planning familial estime à environ 150 000 le nombre d'avortements illégaux réalisés chaque année par des Polonaises avec des pilules abortives ou à l'étranger, plus de 100 fois plus que le nombre d'IVG autorisés.
En Allemagne, là encore, la situation est particulièrement hypocrite. Si les Allemandes ont le droit, sur le papier, d'avorter sans condition, les médecins, eux, ont interdiction de donner des informations sur leur pratique de l'avortement. Depuis 3 ans, une gynécologue se bat pour lever le tabou autour de l'IVG. Elle s'appelle Christina Henel et demande l'abolition de l'article 219A du Code pénal allemand. Pourquoi ? Ce paragraphe a été adopté en 1933, juste après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, et il interdit aux médecins de dire qu'ils pratiquent l'avortement. Depuis Berlin, les explications de Julien Méchaussy.
Si l'avortement est bien légal en Allemagne, l'accès aux informations pour procéder à une interruption volontaire de grossesse est, lui, strictement encadré. Le paragraphe 219A interdit en effet aux médecins, comme Christina Henel, d'informer sur leur pratique de l'avortement. Son combat a commencé après un premier jugement rendu en 2017. Elle a été condamnée à 6000 euros d'amende pour avoir simplement écrit sur son site internet qu'elle réalisait des avortements. Pratique illégale donc, d'après le code pénal. Face au tollé provoqué par ce jugement, la coalition au pouvoir entre sociaux-démocrates et conservateurs a réagi à minima, avec une modification de la loi en mars dernier. Médecins et cliniques ont désormais certes le droit de communiquer sur leur pratique de l'IVG, mais pas celui d'évoquer les méthodes pour avorter. Un compromis qui ne suffit pas aux yeux de Christina Henel, auteur d'un livre qui évoque son combat et y dénonce une législation qui réduit les médecins au silence, tandis que les opposants à l'avortement continuent, eux, d'avoir les mains libres pour communiquer depuis des décennies. Un combat qu'elle poursuit devant les tribunaux. Christina Henel a fait appel de sa première condamnation. Le jugement a été rendu le mois dernier et son amende a été réduite à 2500 euros. Mais plus que cette nouvelle condamnation, ce sont surtout les propos tenus par la présidente du tribunal qui ont retenu l'attention. Pour la première fois, une juge n'a pas hésité à émettre des doutes sur la constitutionnalité de cette loi. Christina Henel a de son côté déjà annoncé vouloir porter son cas devant le tribunal constitutionnel fédéral.
Music.
C'est vendredi et l'heure de notre chronique musicale avec vous, Vincent Teval. Bonjour.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui du groupe écossais Belle and Sebastian.
Je vous propose de démarrer l'année musicale en douceur avec un trait d'union entre 2019 et 2020. Il s'agit d'un extrait de la bande originale du film Days of the Bagnold Summer, signé par le groupe écossais Belle and Sebastian. L'album est sorti à l'automne 2019, mais le film, lui, sera dans les salles obscures dans le courant de cette année. Il s'agit de l'adaptation d'un roman graphique anglais, L'été des Bagnold, un récit d'apprentissage qui raconte l'histoire d'un adolescent fan de hard rock dont les projets de vacances estivales tombent à l'eau. Et voilà le malheureux garçon contraint de passer l'été en tête-à-tête avec sa mère, une sorte de cauchemar pour le garçon. Un cauchemar raconté avec humour et mélancolie. Et pour mettre en musique cette ambiance douce amère, les éternels adolescents de Belle and Sebastian font des merveilles.
Did the eagle just like you wanted? Or did you hold on with your fingernails? There were white hot days in your youth, not anymore. What's the point if we never learn? What's the point without the feeling? When the tears roll down on your cheek, you know you're alive. Let the rain pour down, let the winter come. You won't find your peace in a perfect home. And the perfect man has a crack.
Et on se quitte en musique avec Belle and Sebastian sur RFI.
Let the boy be unfettered and bold.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Nicolas Benita. Pour nous retrouver, nous écouter partout, rendez-vous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast. Excellent week-end à tous. À lundi.